Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique. On continue avec la même équipe que le mois dernier, avec Caroline Entrec du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Et toujours aussi Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire, Mandoré-Lot en Gévaudan. Bonjour Béné.
Bonjour.
Alors on va aller où ce mois-ci ?
Alors ce mois-ci, aujourd'hui, on t'amène sur une route mythique. Alors on va un peu comme au Far West, mais vraiment à l'est, aux confins de la Lozère. Un endroit où tu n'as certainement jamais mis les pieds.
Et pour tout dire, c'est le petit coin de paradis de Bénédicte.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entrègue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandoré-Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, pas mal de routes depuis Mandon. On est où, Caro ?
Alors, on se trouve ici dans une région de granit. Tout autour de nous, on le voit bien, on est à la limite de l'Ardèche en face de nous, du Gard un peu plus au sud, et bien sûr de la Lozère. Et on est au confluent de trois rivières et de trois vallées très typiques, le Chassezac, l'Altier et la Borne. Tu as deviné ? On est à pied de Borne. Alors, cette commune, elle est issue de la fusion en 1964 des communes de Planchamp, des Balmelles et de Saint-Jean-Chazorne. C'est la vallée la plus habitée des trois, dont je te parlais précédemment, hein, Chassezac, Altier et Borne, puisqu'elle a un relief un petit peu plus doux, un peu moins escarpé que celle de l'Altier, et surtout celle du Chassezac qu'on verra tout à l'heure. Et c'est une vallée qui est très fertile. Donc on est ici face à l'Ardèche, sur le hameau de Sainte-Marguerite-la-Figère. C'est vraiment un hameau typique de ce secteur des Cévennes. On a un hameau qui est très compact, avec tout autour des terrasses. On les voit très bien, hein, des très belles terrasses très aménagées sur le pourtour du hameau, sur une partie de relief un peu plus doux, qui sert à différentes cultures. On en parlera tout à l'heure. On est ici à la confluence du Chassezac, de l'Altier et de la Borne. Et c'est marqué un peu par ce débouché des trois grosses gorges qui sont creusées en amont dans la partie granitique. Le plan d'eau où on est, donc c'est la retenue de Sainte-Marguerite-et-la-Figère, comme le nom du hameau, et elle met vraiment en scène l'ouverture de la vallée sur ce secteur. Avant, on a le cours du Chassezac qui est très encaissé, un site qui est inscrit, on le verra tout à l'heure, hein, très caillouteux, très rocheux et finalement peu accessible. Et ici, on est dans la partie qui commence à s'élargir un petit peu et qui va rejoindre l'Ardèche un peu plus bas. On est sur une architecture vraiment vernaculaire de bâtiments qui sont en R+2 voire R+3. Ils sont souvent soit parallèles à la pente face à l'ouest, soit perpendiculaires. On le voit bien et on voit vraiment donc ces bancelles quand on est du côté des Lozériens, ou ces faïs, comme on dit aussi ici. Et on voit vraiment toute l'architecture créée par l'homme pour créer ici un lieu de vie propice, notamment à l'agriculture, sur ces pentes relativement abruptes. Et justement, si on se tourne un petit peu versant est, on va voir une vieille châtaigneraie étagée sur justement ces faïs. Donc là, tout de suite, elle est pas toujours cultivée, elle est revenue un peu à l'état de taillis, un peu sauvage. Mais on voit quand même qu'autour des hameaux, c'est plutôt entretenu. Et donc, on est sur ce secteur. Ces châtaigneraies vont être irriguées par un réseau le long de ce qu'on appelle des baissaous qui amènent l'eau et dont on parlera tout à l'heure. Mais on est vraiment sur un paysage casténéicole très fort. Et oui, effectivement, hein, les châtaigneraies, elles ont vraiment façonné le paysage Chévenol tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a été la principale ressource de la région pendant des siècles. La châtaigne, elle a nourri les Chévenols et leurs troupeaux
pendant de nombreux siècles et ça leur a permis d'éviter la famine, d'où son surnom, hein, on le connaît tous, d'arbre à pain. Alors au XIXe siècle, avec l'exode rural et l'apparition des maladies liées à la monoculture, beaucoup de châtaigneries vont être abandonnées. D'autres vont même être abattues pour l'extraction du tanin qui était utilisé dans l'industrie du cuir ou de la pharmacologie. Mais aujourd'hui, hein, vraiment, la relance s'amorce avec le développement d'une démarche qualité. Tu veux nous en dire un mot, Caro ?
Oui, justement, pas mal des châtaigneries, on va le voir tout à l'heure sur la route, sont de nouveau entretenues sur des terrains qui sont peu mécanisables, pas forcément faciles pour l'industrie agricole, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, depuis peu, il y a eu l'installation de la production Fariborn, qui a été créée en 1999. Et donc, les producteurs du secteur ont voulu mieux valoriser les petites châtaignes qu'ils récoltaient en les transformant en farine ou en brisure de châtaigne. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, emploie quand même 7 salariés.
On a pris un peu la voiture, on est passé devant la centrale EDF et on est devant une petite chapelle.
Oui, on est devant cette petite chapelle et puis tu le vois bien, ici le relief il est très accidenté et l'habitat est très dispersé. Et c'est certainement pour cette raison que l'on trouve un grand nombre de petites chapelles isolées qui marquent le paysage. Alors la plus connue, hein, c'est la chapelle Saint-Loup qui domine le lac de Villefort. Mais là, devant nous, c'est la chapelle de la Madeleine. Alors elle est située sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Borne, le village de Pied-de-Borne et l'usine, tu l'as dit. Alors on connaît mal son histoire, mais son architecture nous permet de la dater à peu près du XIIe siècle. Et pour la petite histoire, elle abrite le cœur d'Odilon Barrault. Alors Odilon Barrault, on en a parlé lors de notre visite à Villefort. Mais pour rappel, c'est un homme politique du XIXe siècle dont la famille est originaire de la région.
Et du coup, Ludo, si on a décidé de t'amener là aujourd'hui, c'est surtout pour te parler de ce petit bruit de fond que l'on entend et ce qui est juste devant nous, la retenue d'eau et l'usine EDF. Alors il faut savoir que ce territoire a connu dans les années 20 un énorme bouleversement et notamment une incroyable aventure énergétique. Le barrage de Pied-de-Borne, où on était juste avant, fait en effet partie d'une série d'aménagements successifs. Le bassin du Chassezac, de l'Altier et de la Borne ont une pluviométrie exceptionnelle. On parle souvent des épisodes Cévenol, etc. Et c'est pour cela que la Société des Grands Travaux de Marseille, en 1929, puis EDF en 1954, décide d'implanter ici une série de 6 barrages et 4 usines. Ces 6 barrages, ils ont pour but de stocker et emmagasiner les crues, puisqu'on a quand même des caractères torrentiels ici. Et cet aménagement, il va durer jusqu'en 1990. C'est la date du dernier barrage qui se trouve à Puy-Laurent, juste un petit peu avant Prévenchères. Et du coup, on a donc ces 6 usines. Donc, on en a 3 sur le Chassezac, Puy-Laurent, Rachas et Malars. Et ensuite, on a le Rouge-Anel qui se trouve sur la Borne. Et ensuite, sur l'Altier, Villefort et Sainte-Marguerite, où nous sommes. Et du coup, Ludo, on te propose de partir en voiture à la découverte de ces grands barrages, ces grands aménagements du milieu du XXe siècle.
Allez, allons-y. On est allé un peu plus loin en voiture avec une châtaignerie qui nous surplombe, Caro.
Oui, on voulait s'arrêter là 2 secondes, Ludo, pour regarder cette belle châtaigneraie très bien entretenue avec justement ces terrasses de granit qui marquent vraiment le paysage. Et si on regarde tout autour de nous, on voit vraiment sous les chênes verts et les châtaigniers toutes ces traces de bancelles où on voit que l'homme a ultra aménagé cet espace. Et donc cette châtaigneraie-là, très entretenue, nous permet de le voir.
Et alors si on regarde à droite, hein, juste au-dessus, là, il y a le hameau de Planchamp avec son énigmatique château qui nous surplombe. Et alors le village de Planchamp, c'est le fief de la famille Barrault. Alors on connaît mal l'histoire du château, hein, c'est une propriété privée, mais sa construction date certainement du XVIIIe siècle et il sera réaménagé par la suite à la fin du XIXe siècle, probablement par Frédéric Barrault. Et il va souhaiter lui donner ce style néo-renaissance. Alors hein, si on regarde bien, il y a vraiment un mélange de techniques, un mélange de matériaux. On va employer du granit, de la brique, du décor stuqué. Il y a même des toits pointus, des toits coniques. Bref, c'est un château bien chargé. Alors on est toujours sur la route là et il faut quand même regarder à droite parce qu'il y a vraiment quelque chose de remarquable. Est-ce que tu vois, Ludo, quelque chose de remarquable dans le paysage ?
Le paysage est remarquable, il est très beau, mais après, un détail, je ne m'en rends pas compte.
Il faut vraiment bien regarder hein, dans ce paysage très très minéral. Hein. Ici, c'est le massif, sur la droite, là, c'est le massif granitique de la Borne. Et il faut vraiment regarder attentivement pour distinguer de les nombreux murets hein, qui sont comme suspendus, accrochés au flanc de la montagne. C'est très impressionnant parce qu'ils se fondent vraiment dans le paysage. Alors, c'est vraiment des exemples remarquables hein, de l'adaptation de l'homme à la nature qui les entoure. Et ces murets sont les vestiges de canaux d'irrigation qui ont été construits au 19e siècle. Alors ici, la terre, elle est rare, la roche, elle affleure partout. Et la sécheresse menace vraiment en été. Donc les paysans, au 19e siècle, vont se rendre compte que le rendement de leur récolte, il est vraiment lié à la possibilité d'irrigation. Alors la rivière qui est en bas, on surplombe en fait l'Altier. Et donc, ils vont choisir de canaliser cette rivière pour permettre l'arrosage de leurs terres. Alors, c'est en 1855 hein, qu'il y a une trentaine de propriétaires des terres ici hein, qui vont se regrouper pour commander la construction d'un canal. Alors, la prise d'eau, elle va se faire sur l'Altier, alors au niveau de la chapelle Saint-Loup, hein, qui est aujourd'hui sous les eaux du lac de Villefort. Et ils vont demander la construction d'un canal. Alors, ça va être un canal au profil très doux. Et qui a une longueur de presque 10 km. C'est un véritable ouvrage d'art entièrement construit en pierre sèche sur un terrain très difficile. On va dériver une partie de l'eau de la rivière pour la mener grâce au canal jusqu'au champ situé au lieu dit qu'on appelle la Viale. Et il était mis en eau à peu près du 15 avril jusqu'à la mi-octobre. Et le canal de la Viale, hein, comme on le nomme, va cesser de fonctionner au début des années 1950. Et en 1958, les derniers habitants quittent le hameau de la Viale.
C'est vrai qu'on a du mal à le distinguer là, parmi les chaos granitiques, mais ça demande vraiment de bien regarder. Regarde juste en face, on voit bien le petit mur, tu vois, ce petit mur horizontal, quasiment horizontal, c'est le canal en fait.
Je suis un renard, juste un charognard, je me suis toujours senti à part. Je suis un volcan, je suis un élan, j'ai mon avenir qui fout le camp. Je tends mon élastique, je suis une boule magique, j'ai dans la bouche un rire sarcastique. Je suis une flamme, je suis une gamme. J'ai plus d'un tour dans mon grand sac. Je suis une couleur et je suis un pleur. Je sais vivre avec mes peurs. Je suis une comptine, je suis une gamine. J'ai des pensées qui tous les jours cheminent. Je suis une vague, je suis une dague. Je suis un corps, je suis un sort. J'ai sous la peau du sang qui s'évapore, qui s'évapore. Tout doucement j'écris au son des rimes et je défierai le temps. Tout doucement j'irai en haut des cimes et je manipulerai le vent. Soyons folles, folkloriques, rien n'est grave, tout est dit. Parce que tout est vrai après les heures grises, après les heures grises. Je suis un renard et comme un bagnard, je me suis toujours senti à part.
un peu de route, on est allé du côté du lac.
Et oui, là du coup, Ludo, nous changeons d'échelle de barrage. On est ici sur le lac de Villefort. Donc c'est le plus grand des 6 barrages dont nous avons parlé. Il possède une capacité de 28 millions de mètres cubes. Il fait 192 mètres de long et 71,5 mètres de haut. Donc on se retrouve là devant un paysage qui apparaît beaucoup plus doux que la vallée de la Borne qu'on a vue tout à l'heure. On a des plateaux qui sont relativement ouverts, où on a beaucoup d'agriculture, d'élevage, qui sont entretenus notamment par le pâturage. Et par contre, tout ce qui est contrefort, là, petit à petit, se reboise. Et donc, sur ces reliefs plus escarpés, la végétation, elle vient se refermer. Et on voit un petit peu, par-ci, par-là, des traces d'anciennes châtaigneraies et de murs, mais qui sont plus difficiles à voir que sur la partie de pied de borne. Cet espace, il a fortement été aménagé pour le tourisme, avec les villages de vacances de Pourcharès qu'on voit juste en face. On a également les campings, on a un port qu'aujourd'hui on ne voit pas parce qu'il est... l'eau est un peu plus basse, mais en général, ici, il y a un port. Et quelques années, il y avait même une piscine flottante. Pas très loin, on a également la Via Ferrata. Donc, c'est vraiment devenu un site touristique majeur pour la Lozère. Et il faut savoir que Villefort fut la deuxième ville du Languedoc-Roussillon à obtenir le label de station verte.
Ce qui signifie ?
Ben, station verte, c'est vraiment les stations de nature, en fait. Voilà, avec le sport nature et des équipements de pleine nature. Donc, c'est cette fameuse période du développement du tourisme, plutôt années 60-70, et plutôt du tourisme de masse, même si ça reste relatif en Lozère, mais on a quand même ici un tourisme de masse autour de ce barrage.
On est également sur un site patrimonial parce qu'on distingue là un peu plus haut sur la montagne une petite construction qui domine le lac. C'est la chapelle Saint-Loup, je vous en ai un petit peu parlé à pied de borne. Encore une petite chapelle isolée. Mais cette chapelle ici, elle a été reconstruite en 1621. Alors elle a été reconstruite à l'identique d'un édifice plus ancien qui avait servi de refuge à un ermite. Et alors, elle est très connue et importante pour les habitants de Villefort et elle fait encore l'objet de deux pèlerinages. Un le 29 juillet pour se souvenir de Saint-Loup et un autre le 16 août pour se souvenir de Saint-Roch.
Et sur le lac, Ludo, tu peux aussi apercevoir une grande structure. Il s'agit de la pisciculture flottante qui permet d'élever des truites bio.
Oui, on peut élever ici des truites bio grâce à un procédé unique en France, hein, sur un lac de barrage EDF. En fait, ici, les poissons, ils sont élevés dans des cages suspendues et en pleine eau. Alors, cette pisciculture, elle appartient à la communauté de communes Mont-Lozère. Alors, la communauté de communes est propriétaire de la structure, mais la pisciculture est gérée par le GAEC Truites du Mont-Lozère.
Donc on est à côté du plus grand des barrages, tu l'as indiqué, Caro, comment fonctionnent ces barrages ?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait ces 6 barrages, ils fonctionnent un petit peu comme en série. Et ils sont, en plus des retenues d'eau, couplées à des prises d'eau. Donc ces barrages, ils permettent de retenir les eaux, car parce qu'il y a un fort étiage entre les saisons. On a parlé des épisodes cévenols, des gros épisodes de pluviométrie. Et donc ces épisodes sont capables de faire tomber en quelques heures l'équivalent d'un mois de pluie. Donc les barrages, ils servent à réguler et stocker ce fort débit d'eau. Donc les barrages, ils fonctionnent comme un véritable moulin à eau en fait. L'eau retenue derrière les barrages est amenée par des conduites forcées sur une turbine qui se met alors en rotation. Ces conduites forcées, on les a vues notamment à pied de borne, c'est des énormes tuyaux qui vont faire à peu près 1 mètre 50 de diamètre. Et donc ces conduites d'eau arrivent sur une turbine qui entraîne un générateur et qui génère du courant électrique. Ensuite, on a un transformateur qui élève ensuite la tension pour faciliter le transport de l'électricité sur de longues distances. L'électricité produite ici sur ces barrages sert vraiment à la distribuer sur un peu de l'export, en tout cas sur d'autres territoires, et c'est pas consommé forcément localement. Pour donner un ordre d'idée, la vallée du Chassezac représente une puissance totale d'à peu près 197 mégawatts. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 162 000 habitants, donc quasiment le double des habitants de la Lozère et l'équivalent des habitants de l'Ardèche.
On sait ce qu'il y avait comme paysage avant le barrage ?
Oui, donc là, on ne le voit pas, mais dessous, notamment sur la partie de l'Altier, on a visité le château de Castanet. Donc on sait déjà qu'il y avait les caves du château de Castanet qui sont maintenant en partie immergées. On avait une vallée qui était très fertile, avec notamment le village de Bayard. Donc ce village, il a été englouti par les eaux. Auparavant, on l'a détruit. Il y avait quand même une vingtaine de familles qui ont été obligées de quitter leur maison, et on a construit pour ça plusieurs lotissements, notamment à Villefort, le lotissement de la Vignette.
Aujourd'hui, le niveau du lac est bas, hein, mais quand il est encore plus bas, on peut encore avoir la chance de voir quelques vestiges engloutis, comme celui du pont Louis-Philippe. Alors, le pont Louis-Philippe, contrairement au village de Bayard, il n'a pas été détruit lors de la mise en eau. Alors, on sait que le pont de Louis-Philippe, il a été construit en 1843 et il a été construit pour permettre de franchir l'Altier et permettre de relier Villefort à Mende. Alors, c'était un pont assez remarquable, hein, puisqu'il était bâti en granit et qu'il mesurait quand même 30 mètres de long pour 8 mètres de large. Et il était composé de deux rangées d'arches. Alors, il y avait trois arches inférieures et 9 arches supérieures.
Et ce pont, du coup, il a été sauvé un petit peu de la démolition parce qu'il a été monument historique. Et il y a une boîte en plomb avec le procès-verbal d'inauguration qui est scellé sous une des piles du pont.
Il y a une actualité sur ce secteur de Pied-de-Borne ?
Oui, bah du coup, Benny en a un petit peu parlé, mais récemment, du coup, la pisciculture vient d'être remise aux normes afin que l'activité puisse perdurer. Donc face à nous, c'est toute la partie un petit peu bleue, et donc ces cages en plastique qui ont remplacé les cages métalliques. On a également le tour du lac qui a été aménagé récemment. Voilà, donc vraiment un lieu de tourisme et de villégiature.
Et on a une anecdote pour Brillant Société sur cette visite ?
Oui, alors on a une anecdote, mais je vais laisser la parole à quelqu'un qu'on vient de croiser là sur le tour du lac et qui a vraiment une sacrée anecdote à nous raconter.
Tiens, mais il y a Vincent qui... Salut Vincent !
Ah ben salut, mais qu'est-ce que vous faites là ?
Ben écoute, on était venu faire une visite, et toi ?
Ah ben moi je suis à la pêche là, tranquille.
Ah, t'as peut-être une anecdote qui concerne la pêche ?
Oui, ben figurez-vous, j'ai entendu là de loin vous parler de la pisciculture. Alors rien à voir avec la pisciculture, mais le lac de Villefort est connu pour ses très grosses truites. Et en 1988, un pêcheur a sorti une truite de 14,3 kg et plus d'un mètre de long. Une truite fario, une truite sauvage. Ce qui en faisait à l'époque un record d'Europe même, voire du monde. Enfin, on va dire du monde, hein, on est lausérienne, donc voilà.
Oh, la belle prise!
Et du coup, Ludo, est-ce que tu sais quel est le record mondial de la truite fario pêchée à la ligne?
Ah, si celle-ci faisait 14,8 kg, on va le doubler, et on va dire 30 kg?
Alors, le record est détenu par un Néo-Zélandais. Ça a été officialisé par l'International Game Fish Association. Et donc, la truite fario faisait 20,1 kg.
Ah, donc ici, on n'était pas très loin du record du monde.
Ah ben non, 14,3, 20 kg, on était vraiment proche. Et pour les Mandois qui s'en souviennent, elle était naturalisée, cette truite, et elle était en vitrine dans l'ancien magasin chasse-pêche à côté de la place au beurre à Mende.
Eh ben, on en apprend tous les jours avec ces visites. Eh ben merci Vincent, je vais te demander où on va le mois prochain.
Ben écoutez, j'en sais rien, moi je me balade, donc... On demandera à Nelly.
Allez, qu'on la verra. Mais bonne balade, Vincent.
Merci, bonne balade à vous.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont. Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.